à Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide en direct de Washington. Nous sommes le lundi 5 mars 2018. Les titres que nous allons développer dans cette demi-heure. Nouvelle vague de tueries en République centrafricaine alors que deux groupes armés se disent satisfaits de leurs engagements pour la paix.
C'est vrai, après l'accord du 15 décembre 2017, il y a eu beaucoup de changements parce que c'est un accord de non-agression et de libre circulation.
Au Burkina Faso, l'enquête sur les attaques meurtrières à Ouagadougou se poursuit. Appel à une journée ville morte ce vendredi en République démocratique du Congo. L'Italie plongée dans l'incertitude au lendemain des législatives marquées par un raz-de-marée de l'extrême droite. Et puis, dans 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports. En République centrafricaine, nouvelle vague de violence à Rafai, dans le sud-est du pays. De violents affrontements opposent depuis hier une bande armée majoritairement peule aux éléments d'autodéfense de cette ville. Pas encore de bilan officiel, mais plusieurs personnes seraient mortes. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Les affrontements ont éclaté hier dimanche aux environs de 5h du matin. Un groupe d'hommes armés non encore identifiés a pris d'assaut la ville dans le but de reprendre le contrôle aux éléments d'autodéfense. Pour le moment, il est difficile de dire avec exactitude ce qui s'y passe, car toutes les lignes téléphoniques en provenance de cette localité sont coupées. Selon des sources jointes par VOA Afrique à Bangassou, une autre ville proche de Rafai, les combats se sont poursuivis jusqu'à cet après-midi. Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. Selon Ernest Musidio, député de Rafai, plusieurs personnes ont été tuées, des écoles saccagées, des habitations et commerces pillés ou incendiés. Les assaillants sont des peuls armés venus du Ombomou et du Soudan, a déclaré l'élu de la nation, précisant par ailleurs que leur objectif serait de marcher sur la ville de Bangassou. Pour le moment, Rafai est vidée de la quasi-totalité de ses habitants. Une partie a fui en brousse et une autre vers Bangassou, où les vagues de déplacés continuent d'arriver. À Bangui, ni le gouvernement, ni la MINUSCA, qui a une présence militaire dans la ville, ne s'est encore exprimé sur cette nouvelle spirale de violence. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'attaque terroriste au Burkina Faso, l'enquête se poursuit sur les lieux des attentats à Ouagadougou pour tenter de déterminer les différentes implications. Ce lundi, deux présidents ouest-africains sont arrivés dans la capitale burkinabé pour témoigner de leur solidarité. Le point avec Blanche Sanou.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et le président du Togo, Fonya Singwe, sont arrivés lundi à Ouagadougou. Avec leur homologue burkinabé Rockmar Christian Kabore, ils se sont rendus sur les lieux des attaques, l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Monsieur Issoufou est également le président en exercice du G5 Sahel, une force militaire régionale pour combattre les groupes djihadistes. Les enquêteurs de la police scientifique travaillent d'arrache-pied pour collecter des informations sur les sites des attaques. De plus, les enquêteurs soupçonnent qu'il y ait eu des complicités dans l'armée. Un bilan avait fait état de 7 morts dans l'armée, 9 assaillants tués et plus de 80 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Une vidéo diffusée par le groupe État islamique et montrant un soldat américain tué dans une embuscade au Niger montre la perversion de ce groupe djihadiste, affirme le Pentagone. Le ministère américain de la Défense est informé de la publication de photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger. Indique le Pentagone dans un communiqué, cette publication montre la perversion de l'ennemi que nous combattons, écrit-il. Niger, toujours, l'université de Niamey, paralysée depuis fin février par une grève des enseignants qui protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par des étudiants sur le campus. Les grévistes exigent notamment l'exclusion des étudiants agresseurs et la dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre, l'organe estudiantin qui fait office de police sur le campus universitaire. En République démocratique du Congo, une dizaine de mouvements pro-démocratie appellent à une grève générale ce vendredi pour protester contre la mort de militants tués dans ce qu'ils qualifient de répression criminelle, la démarche anti-Kabila. Le 25 février, deux personnes ont été tuées par balle en marge des marches organisées par le comité laïque de coordination Eric Bolokoloko et Rossi Mukendi, initiateurs du mouvement collectif 2016. Les deux agents auteurs de ces bavures ont été arrêtés d'après la police. En Angola, Isabel Dos Santos dément les accusations de détournement de fonds à la Sonangol, la fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos, dirigeait la compagnie pétrolière publique. Le 28 février, le nouveau patron de l'entreprise, Carlos Saturnino, a dénoncé la mauvaise gestion d'Isabel dos Santos et pointé du doigt des opérations à la légalité à ses yeux douteuses. La justice angolaise a annoncé l'ouverture d'une enquête sur de possibles détournements de plus de 38 millions de dollars. Selon Isabel dos Santos, Carlos Saturnino tente délibérément d'induire en erreur l'opinion publique en lui faisant croire qu'il y a eu irrégularité. Mouvement de grève contre l'état d'urgence en Éthiopie. De nombreux commerces étaient fermés aujourd'hui à Addis Abeba et sa région. L'état d'urgence a été imposé par le gouvernement depuis mi-février. Au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Hailemariam Desalegn, le décret interdit toute grève ou entrave à la circulation. Les manifestations sont avant tout l'expression d'une frustration des Oromo et des Amara qui représentent 60% de la population face à ce qu'ils perçoivent comme une surreprésentation de la minorité des Tigréens au sein de la coalition au pouvoir. Cacophonie sur la date de l'élection présidentielle à Madagascar. Le ministère malgache des Affaires étrangères a fait marche arrière aujourd'hui après l'annonce par le chef de la diplomatie de la date du scrutin prévu cette année. D'après un communiqué, le ministre avait simplement fait une projection. Il appartiendra à la commission électorale du pays de proposer les dates définitives 80 jours avant l'élection, explique le ministère.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arabie Saoudite et l'Égypte vont créer un fonds d'investissement de plus de 10 milliards de dollars sur les rives de la mer Rouge dans le cadre d'un méga projet de zone de développement dans le sud du Sinaï. Une annonce faite lors de la première visite officielle à l'étranger du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Les détails avec Salwa Jaafari.
Le prince Salman accueilli en grande pompe au Caire, signe d'un dégel entre les deux pays après plusieurs mois de brouilles. 10 milliards de dollars, c'est la valeur du fonds d'investissement que les deux parties s'engagent à financer à part égale pour construire une méga-cité au milieu du désert. La part des Égyptiens comprend un terrain loué à long terme. L'accord vise à développer le côté égyptien de Neom, projet futuriste aux confins de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie, dévoilée par le prince Mohamed en octobre dernier dans le cadre d'un plan de diversification de l'économie pétrolière du royaume. Le projet NEOM, qui nécessite 500 milliards de dollars d'investissement, sera un centre de biotechnologie et de technologie numérique qui s'étendra sur plus de 26 milliards de kilomètres carrés. La visite du prince saoudien, première étape de sa première tournée à l'étranger en tant qu'héritier du trône saoudien, a lieu avant les élection présidentielle prévue en mars en Égypte. Il est attendu entre autres en Grande-Bretagne mercredi et aux États-Unis du 19 au 22 mars.
Au moins 44 civils ont été tués aujourd'hui dans des bombardements du régime syrien sur l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Il s'agit d'un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les frappes ont visé plusieurs secteurs de ce dernier fief rebelle, proche de Damas, la capitale, depuis avant l'aube. Plusieurs morts ont été retirés des décombres, d'après l'OSDH. En Italie, les populistes du mouvement 5 étoiles, le M5S et la Ligue d'extrême droite ont obtenu des résultats historiques aux législatives. Chaque parti revendique le droit de gouverner seul en excluant toute alliance. Les précisions avec Didi Dicou.
La coalition de droite est arrivée en tête avec 37% des voix, mais le parti eurosceptique et anti-immigration du chef de la Ligue, Matteo Salvini, proche du Front National français, a revendiqué le droit de former le gouvernement. Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, a revendiqué lui aussi le droit de former un gouvernement. Son mouvement a triplé le nombre de ses parlementaires grâce aux 11 millions d'électeurs qui ont voté pour ce parti. Son leader, âgé de 31 ans, a évoqué les grands thèmes de la prochaine législature, à savoir la pauvreté, le gaspillage, l'immigration, la sécurité et l'emploi. À défaut de majorité claire, ce bouleversement politique en Italie ouvre une phase d'incertitude pour le pays et pour l'Europe.
Le président américain Donald Trump affirme qu'il pourrait transiger sur les taxes envisagées sur l'aluminium et l'acier si un nouvel accord de libre-échange juste avec le Mexique et le Canada était signé. Nous avons de profonds déficits avec le Mexique et le Canada. La LENA, qui est en cours de renégociation en ce moment même, a été un mauvais accord pour les États-Unis. Les taxes sur l'acier et l'aluminium seront retirées uniquement si un nouvel accord juste de l'ALENA est signé, a écrit le président sur Twitter. Quatre Irakiens qui projetaient d'attaquer l'ambassade américaine à Ankara ont été arrêtés dans le nord de la Turquie lors d'un coup de filet mené à la suite d'une alerte lancée la veille par l'ambassade américaine qui a été fermée au public ce lundi. Selon les médias, les suspects sont liés au groupe djihadiste État islamique. L'ambassade américaine en Turquie a été visée par un attentat suicide en 2013. Et puis le pape François reçut aujourd'hui au Vatican le jeune chancelier conservateur autrichien de 31 ans, Sébastien Kurz. Le pape a évoqué avec lui la nécessité de la solidarité entre les peuples alliés au parti d'extrême droite FPÖ au sein du gouvernement. Sébastien Kurz, comme ses voisins de l'Est, refuse d'accueillir des quotas de réfugiés au nom de la solidarité européenne. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Blanche Sanou.
En Côte d'Ivoire, ouverture à Abidjan d'un colloque sur la sécurité maritime réunissant 50 experts des pays du Golfe de Guinée. Cette rencontre permet d'élaborer des stratégies de sécurité et la planification pour l'utilisation des ressources autour de l'économie maritime. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le gouvernement ivoirien entend jouer un rôle leader dans la promotion de l'économie maritime dans le Golfe de Guinée. Bangui, la capitale de la Centrafrique, dispose désormais d'une représentation au port autonome de Douala. Ce pays utilise le port de Douala pour plus de 80% de ses exportations et importations. Selon la Direction générale de douanes, près de 55 milliards de francs CFA de marchandises transitent chaque année par le port de Douala. Les autorités portuaires camerounaises expliquent cette nouveauté par leur détermination à reconquérir et fidéliser ses clients. Au Sénégal, la Société nationale de commercialisation des semences a collecté plus de 147 000 tonnes d'arachides au 1er mars. Ce stock représente plus de la moitié du volume escompté par la Sonacos au terme de la phase de commercialisation de l'oléagineux prévue pour s'achever dans les trois prochains mois. L'arachide est la première culture d'exportation du Sénégal. L'oléagineux représente près du tiers des terres agricoles et emploie environ deux tiers de la main-d'œuvre agricole.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
J-1 en Europe pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.
Oui, le Paris Saint-Germain qui vise une remontada face au Real Madrid, vainqueur 3-1 à l'aller. Le Paris Saint-Germain rêve de refaire le coup de 1993. Souvenez-vous, lorsque le PSG avait surmonté un revers identique à l'aller, mais s'était finalement imposé 4-1 au Parc des Princes lors du match retour et un certain Georges Weah était à l'époque sur la pelouse. Mais 25 ans plus tard, cela va être difficile sans le meilleur joueur du PSG, Neymar, opéré, vous le savez, ce week-end du pied. Il sera vraisemblablement remplacé par Angel Di Maria sur le terrain. Dans l'autre rencontre mardi soir, Liverpool a la qualification presque en poche en accueillant Porto, battu 5-0 à l'aller. On se souvient du triplé de Sadio Mané.
En Italie, c'est toujours l'émotion.
Davide Astori, capitaine de la Fiorentina, est décédé dimanche à Udine. L'autopsie aura lieu demain et ses funérailles se dérouleront jeudi à Florence, annonce du club italien. Davide Astori, international et capitaine de la Fiorentina, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans une chambre d'hôtel où son équipe aurait dû jouer dimanche en match de la 27e journée de Serie A.
L'entraîneur argentin Marco Bielsa va devoir payer.
Marcelo Bielsa, qui conteste son licenciement par le LOSC pour faute grave, a été condamné par le tribunal de commerce de Lille à verser à son ancien club 300 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère abusif de son assignation devant la justice.
Et Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, Toronto, leader de la conférence Est, a consolidé son statut de meilleure équipe de NBA dans sa salle en battant Charlotte 103-98. La Nouvelle-Orléans a aligné une 8e victoire consécutive à Dallas, 126-109. Indiana s'est imposée à Washington, 98-95. Et puis les Knicks de New York qui s'éloignent un peu plus des playoffs après leur défaite à Sacramento, 102-99.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide en votre compagnie sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson entame à partir de demain, mardi, une tournée africaine qui va le mener au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Il s'agit de la première visite du chef de la diplomatie américaine sur le continent. Pour en parler, Abdourahman Dia a joint à Johannesburg l'un des porte-parole du département d'État, Bryant Newbert.
Le secrétaire Tillerson, comme vous savez, a invité 37 délégations africaines à Washington novembre passé. Et donc, il a commencé une série de consultations avec ses homologues africains. Et donc, cette visite est la suite de ces discussions.
Le secrétaire Tillerson se rendra au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Est-ce qu'il y a une raison derrière le choix de ces pays?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais souligner que ce n'est que la première visite en Afrique. Donc, ces 6 pays sont très importants, mais nous savons bien qu'il y en a des autres. Donc, il y aura encore une visite en Afrique, on imagine, pendant l'année. Mais bien sûr, ces pays sont parmi les plus grands, qui ont une économie, une puissance dans la région très importante. Et bien sûr, Addis Ababa, il s'agit pas uniquement de réunions importantes avec les autorités éthiopiennes, mais aussi il faut consulter avec l'Union africaine.
L'étape tchadienne sera certainement très importante également, puisque le Tchad est sur la liste des pays dont les citoyens sont interdits de voyager aux États-Unis. Est-ce que c'est une question qui sera abordée?
Probablement oui. Nous n'avons pas tous les détails des sujets, des thèmes qui soient discutés. Mais j'ajouterai que nous travaillons bien avec le gouvernement du Tchad. Nous avons un partenariat dans le domaine de sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Nous pensons que le Tchad va faire ce qui est nécessaire pour être enlevé de cette liste la plus vite possible.
Et la question de la démocratie et des droits de l'homme, puisque certains ici aux États-Unis semblent dire que l'administration ne s'intéresse pas trop aux questions de démocratie et de droits de l'homme. Que répondez-vous à cela?
Les États-Unis en Afrique, nous avons 3 priorités. Tout d'abord, la démocratie. Puis deuxième, développement économique, et troisième, en général, sécurité et stabilité. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Et le secrétaire Tillerson, il va discuter tous les 3 dans ses réunions officielles. Il va souligner que c'est dans leur intérêt pour la stabilité et pour le développement de l'économie de chercher des moyens de choisir la piste vers une plus bonne gouvernance.
Bryant Newbert, porte-parole du département d'État, était en ligne de Johannesburg.
Êtes-vous pour ou contre le partage des tâches ménagères entre hommes et femmes? Vos réactions ce soir dans À votre avis, Morgane Diayek en votre compagnie. Réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons. À ce soir.
Retour en République centrafricaine, 2 groupes armés se disent satisfaits de leurs engagements pour la paix et la cessation des hostilités. Les Antibalaka et les 3R ont passé en revue hier leur accord de non-agression signé en décembre dernier dans le nord-ouest du pays. De Bangui, la capitale centrafricaine, le compte-rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Après plusieurs mois d'affrontements meurtriers entre Trois-Airs et Antibalaka dans le nord-ouest de la République centrafricaine, les deux groupes armés signent le 15 décembre 2017 un pacte de non-agression. L'accord prévoit la cessation des hostilités, la libre circulation des personnes et de leurs biens et le respect de l'autorité de l'État. Près de trois mois aujourd'hui, l'heure est au bilan. Dimanche 4 mars, les deux mouvements armés ont passé en revue leurs engagements dans la ville de Bouare. Général Sio, numéro 2 du mouvement 3R.
C'est vrai, après l'accord du 15 décembre 2017, il y a eu beaucoup de changements parce que c'est un accord de non-agression et de libre circulation. Non-agression entre le groupe 3R et les Antibalaka. Depuis lors, il n'y a jamais eu d'agression. Et la libre circulation a repris et beaucoup de personnes sont retournées dans leurs anciennes résidences.
Dans le rang des Antibalaka, c'est également la satisfaction, même si quelques dérapages restent à corriger côté 3R selon les responsables. Les deux groupes armés se sont mis d'accord pour mener une vaste de sensibilisation dans toute la région du Nord-Ouest en faveur de la paix et la cohésion sociale. Général Sylvain Adamoundalé, coordonnateur des Antibalaka de la Nana Mombéré. Depuis la signature de cet accord le 15 décembre 2017, j'ai remarqué beaucoup de signaux positifs. La seule chose que je déplore, c'est que certains éléments de 3R se promènent encore avec des armes. Pour moi, si nous acceptons de nous faire la paix, personne ne doit plus se promener avec les armes, les couteaux ou la tenue militaire. C'est le petit dérapage que j'ai noté. De leur côté, ils m'ont rassuré qu'ils tiendront compte de cela. Nous avons convenu de mener ensemble une vaste sensibilisation auprès de la population de la Nana Mombéré en faveur de la paix, pour leur dire que nous ne sommes plus des ennemis et que la guerre est terminée. L'évaluation s'est déroulée en présence des autorités préfectorales et de la MINUSCA, la mission de l'ONU. Le prophète de la Nana Mombéré, Alexis Nagizangba, note une nette amélioration de la situation sociale et sécuritaire dans sa préfecture.
Depuis l'accord de 15 décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a un progrès considérable. Il y a la libre circulation et les violations des droits de l'homme complètement réduites parce que les parties prenantes essaient de tout faire pour faire respecter cela. Et voilà, aujourd'hui encore, ce qui m'a marqué, les deux groupes ont fait une déclaration conjointe à la presse. Et encore, ils disent, ils vont organiser des missions de sensibilisation conjointes. Ça veut dire Antibalaka et 3R dans un même véhicule pour aller sensibiliser la population. Les deux groupes qui étaient hier des ennemis sont devenus des amis, même que des frères, pour œuvrer pour la paix dans la Nana Mombéré.
Pour garantir la paix, les deux groupes armés demandent au gouvernement d'accélérer le processus de désarmement et de restauration de l'autorité de l'État dans la région. Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique du Sud, les autorités ont déclaré avoir enfin trouvé la source de l'épidémie de listériose qui fait des victimes depuis plus d'un an, la pire jamais enregistrée dans le monde. Sur 950 cas déclarés, on compte 180 morts depuis janvier 2017, d'après l'Institut national des maladies contagieuses. Pour en savoir davantage, Yacouba Ouedraogo s'est entretenu avec Peter Benembarek, expert de l'OMS en sécurité sanitaire des aliments.
La listériose, c'est une maladie d'origine alimentaire assez sévère parce qu'elle tue environ 20 à 30% des cas humains. C'est une bactérie qui affecte en particulier le cerveau et donc provoque des maladies du type méningite. Elle est particulièrement sévère pour les gens qui ont un système immunitaire réduit, surtout aux gens âgés, aux gens qui sont sous traitement pour des cancers et des transplantations, puis aussi les nouveau-nés et les femmes enceintes.
En Afrique du Sud, il y a eu 950 cas déclarés depuis janvier 2017. 180 sont morts. C'est un bilan assez lourd.
Très lourd, en effet, très lourd. C'est la plus grande épidémie de listériose qui a été détectée dans le monde depuis toujours.
La plupart des cas touchent principalement des enfants. Comment expliquez-vous cela?
La raison, c'est qu'ils ont été infectés quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. C'est donc leur mère qui a consommé des produits contaminés. L'infection chez la mère n'a peut-être pas été très importante ou détectée à temps, et elle a passé l'infection à leur fœtus juste avant l'accouchement, et donc les bébés naissent en fait avec déjà l'infection et tombent malades très rapidement durant leur première semaine de vie.
Finalement, les autorités sud-africaines disent avoir trouvé la source de cette épidémie dimanche, un an après le déclenchement déclenchement de la maladie et parle d'une usine alimentaire. Pourquoi tout ce temps-là avant de savoir exactement ce dont il s'agit?
Les épidémies de listériose ne sont pas faciles à résoudre et il n'est pas facile de trouver la source. Et souvent, on ne trouve jamais la source parce que le temps d'incubation est très long. Il peut durer d'une à trois semaines. Après trois semaines, quand les gens tombent malades et on essaye de les interviewer pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé trois semaines avant ou deux semaines avant, souvent les gens ne se rappellent pas en détail de ce qu'ils ont mangé, donc il est souvent très difficile de faire le lien et d'identifier un aliment qui a été la source de cette infection et donc de faire le lien entre un aliment et ces cas humains. En Afrique du Sud, où c'est apparemment une sorte de saucisse à base de viande qui est consommée de manière très commune par tout le monde.
L'ensemble des produits sortant de cette usine qui a été incriminée vont être rappelés selon les autorités sud-africaines. Quelles sont les précautions à prendre dans l'immédiat?
Il est important justement d'identifier où tous ces produits ont été distribués, de rappeler les produits qui n'ont pas encore été vendus, aussi d'informer les consommateurs des détails de ces produits, potentiellement avec des photos du produit.
Quels sont ces produits à risque là?
C'est justement ceux qu'on ne cuit pas ou ceux qu'on consomme quel tel. Par exemple, les saucissons, des saucisses, des fromages, des produits laitiers qui ne sont pas réchauffés ou cuits après qu'on les ait achetés.
Peter Ben Mbarek, expert de l'OMS en sécurité sanitaire des aliments, joint à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Allez, du cinéma pour clore le monde aujourd'hui, La forme de l'eau de Guillermo del Toro a été sacré Oscar du meilleur film hier. Le long métrage a remporté au total 4 prix lors d'une cérémonie marquée par de vibrants appels contre les discriminations sexuelles et raciales. Pour faire le point sur tous les palmarès de cette 90e cérémonie, nous retrouvons en direct de Hollywood, Los Angeles, notre envoyé Arzuma Compaoré. Arzuma, belle soirée donc pour le Mexique.
Alors en effet, Jacques Aristide, belle soirée pour belle moisson pour le Mexique. Guillermo del Toro rentre chez lui avec 2 Oscars, celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les 2 autres Oscars, comme vous l'avez dit, remportés par son film La forme de l'eau, sont ceux de la meilleure musique et des meilleurs décors. Toujours pour le Mexique, Coco de Pixar a remporté les Oscars du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson. Donc voilà, c'est vraiment une belle moisson pour le cinéma mexicain.
Quels ont été les autres temps fort de la nuit, Arzuma?
Alors, on peut se rappeler que dans le subtexte de la soirée, les sujets comme l'immigration, comme la politique étrangère, les violences sexuelles, la diversité, etc., étaient vraiment présents. Le palmarès a récompensé pour la première fois un cinéaste noir, Jordan Peele, pour son scénario dans le film d'horreur Get Out, dans la catégorie meilleur scénario original. Et l'Oscar du film en langue étrangère est allée au Chilien, une femme fantastique de Sébastien Lelio, qui est portée par une actrice transgenre, Daniela Vega. Donc il y a vraiment cette atmosphère de diversité qui est vraiment présente. Il faut aussi se rappeler que sur le tapis rouge, Stéphanie Haddish, qui a ses origines érythréennes, était habillée complètement en tenue traditionnelle d'Érythrée pour rendre hommage à son défunt père qui est mort il y a une année. Et donc c'était aussi un moment assez fort, assez poignant. Et puis, entre le discours d'acceptation de Frances McDormand, qui a vraiment enflammé la salle avec un discours d'encouragement pour les femmes. Elle a mentionné quelque chose dans son discours. Elle a parlé d'inclusion. Elle a parlé de cette clause d'équité qui permet aux acteurs qui, quand ils signent leur contrat, d'exiger ou en tout cas de demander au moins 50% de diversité dans leur projet. Et je pense que c'est un peu ça qui va un peu déterminer aussi comment les actrices vont se comporter et vont réclamer encore plus d'équité et puis de droits dans les jours à venir.
Oui, en une poignée de secondes, Arzuma, vous avez parlé de Stéphanie Haddish. Quid de l'Afrique, justement?
Alors, l'Afrique a quand même été mentionnée. On a perdu un de nos grands, il n'y a pas très longtemps, Idrissa Ouedraogo, et au cours du traditionnel In Memoriam. Donc, c'est cette vidéo qui rend hommage à tous les acteurs, les réalisateurs, les cinéastes qui sont décédés au cours de l'année. Et donc, Idrissa Ouedraogo a été mentionné. C'était un moment assez intéressant et assez poignant pour, en tout cas, l'Afrique, de pouvoir se retrouver représentée comme ça et voir que les Oscars aussi mentionnent ce grand personnage.
Merci bien, Arzouma. Point final à ce numéro du Monde aujourd'hui.
VOA Afrique, les infos.